en deux. 7h44 à Paris. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine, bâillon médiatique et politique au Burkina Faso.
Oui, difficile de faire son métier de journaliste au pays des hommes intègres. Les atteintes à la liberté d'expression se multiplient dans le pays, constate Le Monde Afrique. Et les enlèvements sont devenus monnaie courante. Deux journalistes ont été enlevés hier matin à Ouagadougou. Guezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina, ont été emmenés vers une destination inconnue par des agents se présentant comme des policiers des services de renseignement. C'est ce que rapporte le site lefaso.net qui précise que Guezouma Sanogo avait récemment affirmé lors du congrès de l'association que la radio-télévision du Burkina et l'agence d'information du Burkina étaient devenus des outils de propagande du pouvoir actuel. Largement relayé sur les réseaux sociaux, ce point de vue avait fait l'objet de nombreux commentaires, pointe encore le site burkinabé, certains estimant qu'en tant que journaliste de la maison, il ne devait pas tenir de tels propos, d'autres soulignant qu'il avait fait fi du contexte et que son discours était mal à propos, tout en appelant les autorités à sanctionner le journaliste.
Autre journaliste appréhendé hier relève Wakatsera, autre site d'information burkinabé.
Oui, Luc Pagbelgem a été emmené par des agents du Conseil National de Sécurité, journaliste à la chaîne de télévision publique BF1. Il venait justement de faire un reportage sur la clôture de ce congrès de l'Association des journalistes du Burkina. Lors de ce congrès, rapporte lefaso.net, le nouveau bureau de l'association avait promis de poursuivre sa mission qui est de défendre les droits des journalistes vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités et de les former afin qu'ils diffusent des informations de qualité au profit des populations, et ce dans un contexte marqué par l'insécurité et la dégradation de la liberté d'expression.
Pour leur part, les autorités militaires sont debout contre ce qu'elles appellent une campagne de désinformation.
C'est ce que souligne Afrique.com, une campagne qui viserait, d'après elle, à ternir l'image de l'armée et à semer la division au sein de la population. Samedi, un communiqué officiel dénonçait la diffusion de vidéos truquées présentant de supposés massacres de civils attribués aux supplétifs des FDS, les forces de défense et de sécurité. Toujours selon les autorités militaires, la propagation de ces fausses informations répond à une stratégie bien rodée. Le but est de créer un climat de suspicion et d'exacerber les tensions intercommunautaires. Ces mêmes autorités, poursuit Afrique.com, exhortent la population à ne pas relayer des contenus non vérifiés et à faire preuve de discernement. La sécurité du pays reste fragile dans ce contexte. Toujours d'après le pouvoir militaire burkinabé, la lutte contre la désinformation devient essentielle pour préserver cohésion sociale et souveraineté.
Pour Sidoya, autre site d'information burkinabé, certes le terrorisme peut se déployer sous la forme d'une désinformation et d'une manipulation pour opposer les burkinabés aux burkinabés.
Oui, toutefois déplore Sidoya, dans cette guerre transposée sur les réseaux sociaux et méthodiquement menée dans certains médias, les voix du peuple burkinabé, que sont les médias de service public, sont pris à partie au point d'être taxés de propagandistes. Et Sidoya de s'interroger en quoi respecter sa ligne éditoriale de médias publics, mettre sa plume au service de la nation, pourrait être un crime, une erreur professionnelle. Le professionnalisme du journalisme lui interdit-il de défendre sa patrie quand celle-ci est menacée de disparition?
Enfin, il n'y a pas que les journalistes à être ciblés.
Oui, l'opposition à la junte continue d'être durement réprimée au Burkina Faso. Pointe Le Monde Afrique, quatre membres du mouvement politique Sens, Servir et Non Se Servir, qui avaient récemment dénoncé des massacres de civils attribués à l'armée et à ses supplétifs, ont été enlevés samedi dernier, comme un autre militant hier. Ces enlèvements, affirme le mouvement, visent d'abord à briser notre détermination, puis à museler notre voix et enfin à installer la peur et le renoncement dans toute la société. Sens dénonce fermement cette nouvelle vague de répression politique et appelle le gouvernement à plutôt empêcher les tueries d'innocentes populations au lieu de s'en prendre à ceux qui les dénoncent. Le mouvement, rapporte toujours Le Monde Afrique, appelle enfin à faire barrage à la dérive dictatoriale du MPSR2, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, l'organe qui dirige la junte.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. Vous revenez dans une demi-heure, Frédéric, pour la revue de presse internationale et vous nous parlez de cette grosse boulette de l'administration américaine.
Oui, ou comment un journaliste a-t-il pu être directement informé d'une opération top secret? On voit ça tout à l'heure.
On en reparle à 8h15. Merci à vous, Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Il se dit surpris et pas surpris à la fois, surpris par l'ampleur de ces bombardements il y a une semaine, jour pour jour et presque heure pour heure lors de la reprise des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Témoignage ce matin sur notre antenne du journaliste palestinien Rami Abou Djamous. Il était l'invité d'Arnaud Pontus tout à l'heure à 7h20. Leur entretien est à retrouver sur notre site RFI.fr. Depuis le 18 mars dernier donc, le ministère de la Santé du Hamas a comptabilisé au moins 730 Palestiniens tués dans le territoire après la reprise de ces frappes israéliennes. Hier, un journaliste d'Al Jazeera a été tué dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza. La défense civile de Gaza a indiqué que sa voiture avait été visée par un drone à Beit Lahia dans le nord de l'enclave. Israël qui a appelé hier soir les habitants du nord de la bande de Gaza évacués en prévision d'une frappe. Et puis ce matin, l'armée de l'État hébreu dit avoir frappé encore deux bases militaires situées dans le centre de la Syrie, et cela au lendemain d'une mise en garde prononcée par la chef de la diplomatie européenne contre une nouvelle escalade. En Turquie, de nouveaux rassemblements. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont notamment réunies devant la mairie d'Istanbul. On y revient dans le journal de 8 heures. On attend aujourd'hui un communiqué commun Russie et États-Unis après leur pourparler hier à huis clos en Arabie Saoudite pour un cessez-le-feu en Ukraine et sur la sécurité en mer Noire notamment. Un négociateur russe dit ce mardi à nos confrères de l'AFP que ces pourparlers ont été utiles, un dialogue utile va se poursuivre, a déclaré ce négociateur, la Russie, qui souhaite également associer l'ONU à ces discussions. On y revient pareil dans le prochain journal. Pour le FMI, pas de doute, l'ancien pouvoir au Sénégal a caché une partie de la dette du pays depuis 2019. Le Fonds monétaire international valide ainsi le rapport de la Cour des comptes publié le 12 février. Une délégation du FMI est en déplacement en ce moment dans la capitale sénégalaise depuis une semaine pour s'entretenir avec les autorités. Et alors que le programme d'aide du FMI au pays est toujours suspendu, le chef de cette mission est notre invité ce matin, Edouard Gemayel. Il répond à Léa Lisa Vesterhoff. Entretien.
Edouard Gemayel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez conduit la délégation du FMI à Dakar cette semaine. Quel est l'objectif de cette visite?
En effet, ça fait une semaine qu'on est à Dakar. C'est une mission à caractère un peu spécial. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes à la mi-février, nous sommes venus à Dakar pour discuter avec les autorités du contenu du rapport, notamment ce qui s'est passé en termes de dette pendant l'ancienne administration, comment cette dette s'est accumulée sans être divulguée, et troisièmement, quelles sont les mesures et les réformes que les autorités souhaitent prendre dans les semaines, mois et années à venir afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise.
Selon le document publié par la Cour le 12 février dernier, les comptes initialement arrêtés en décembre 2023 faisaient état d'une dette publique sénégalaise qui était à plus de 70% du PIB, finalement sous-estimée, puisque dans son audit, la Cour des comptes parle d'une dette à près de 100% du PIB. En êtes-vous arrivé à la même conclusion que les autorités actuelles, à savoir que l'administration précédente a délibérément menti aux partenaires financiers du pays au sujet de l'état économique du pays?
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge?
Il y a une sous-estimation. Donc on a eu une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez?
Bon, 25% du PIB, c'est à peu près 6, 7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détournés. C'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
C'est un chiffre gigantesque. Dans ces conditions, le Fonds monétaire international peut-il continuer à prêter de l'argent au Sénégal comme le demandent les nouvelles autorités?
C'est pour ça la première étape dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir déterminer ce qui s'est passé, comment c'est passé et quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre afin d'éviter ceci de se répéter dans le futur. Une fois que nous avons tout ceci, nous allons soumettre un dossier au conseil d'administration du FMI. Le conseil aura deux choix. Soit il va donner une dérogation aux autorités, une dérogation de ne pas rembourser le FMI des décaissements qui ont eu lieu dans le passé sur base de données erronées, en contrepartie de mesures correctrices. Et le deuxième choix, c'est de demander au Sénégal de rembourser le FMI sur ce qui a été décaissé sur base de fausses données. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est une décision que le conseil d'administration éventuellement devrait prendre dans les semaines à venir.
Le rapport de la Cour des comptes relève des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales, dont des faux en écriture, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, selon le ministre de la Justice. Est-ce que vos experts sont arrivés à la même conclusion ?
On a eu des discussions avec les autorités, y compris avec le ministre de la Justice, qui a confirmé ceci. C'est le rôle du ministère de la Justice et de la justice sénégalaise de poursuivre ces faits.
Mais est-ce que vous les qualifiez de la même façon ?
Il faut laisser la justice prendre son cours et les investigations prendre leur cours. Et puis ceci va déterminer si ces faits ont eu lieu ou pas lieu.
En tout cas, on peut parler de manquement grave.
Il y a eu un certain manquement, absolument.
En 2016, le FMI avait suspendu ses financements au Mozambique après la découverte $1 milliard de prêts cachés. Est-ce qu'il est possible que le FMI fasse de même avec le Sénégal ?
Pour le moment, le programme avec le FMI est suspendu afin de résoudre la question de la fausse déclaration de données. Une fois que notre conseil d'administration va statuer sur cette affaire, à ce moment-là, on pourra reprendre les discussions sur un programme.
Ce qui veut dire qu'à ce jour, le Sénégal, qui est en cas de liquidité et qui demande au Fonds monétaire international de reprendre le prêt qu'il a entamé avec lui, à ce jour, vous n'êtes pas encore en mesure de dire si ça va reprendre ou non.
Jusqu'à ce jour, on n'est pas en situation parce qu'on doit résoudre le problème des fausses données. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on est en train d'avancer le plus vite possible afin de mettre ce dossier derrière nous et de pouvoir re-entamer des relations financières avec les autorités sénégalaises.
Eddy Gemayel, merci.
Le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Édouard Gemayel, entretien avec Léa Lisa Vesterhoff, retrouvé sur notre site rfi.fr dans 5 minutes, le journal. Mais d'abord, on vous retrouve, Maman, et vous nous dites ce matin que le Gondouanais lambda a bien du mal parfois à se retrouver dans les discours et les injonctions qui viennent d'en haut.
Oui, le pauvre Gondouanais lambda, citoyen souvent dupé mais jamais dupe, a parfois l'impression de vivre dans un film en langue originale dont il n'a pas les sous-titres. Il pense comprendre quelque chose, piochant un mot par-ci par-là, pour finalement se rendre compte un peu plus loin qu'il a eu tout faux. C'est cette permanente douche écossaise que subit notre cher ami à chaque fois qu'il écoute et regarde évoluer les hommes politiques, les dirigeants économiques, les éditorialistes et tous ceux qui ont micro ouvert partout et tout le temps, que ce soit en très très démocratique république, en république de Mbengue capitale, Paris et dans le reste du monde. Quand tu lui demandes de te dire exactement où se situe son triangle des Bermudes, c'est-à-dire à quel moment son GPS a perdu le réseau, le Gondouanais lambda n'arrive pas à te dire de manière claire et limpide. Il te dit juste « Écoute, je te dirais juste que j'en ai marre du deux poids deux mesures, du double standard et de toutes ces choses à géométrie variable. » Bon, je sais que ça t'embouche un coin, hein, cher auditeur. Nouveau venu dans ces eaux inconnues. Tu t'attendais pas à ça, hein? Attends, tu croyais que quoi? Même s'il n'a pas fréquenté les bancs de l'école comme toi, mais le Gondouanais lambda a un laser entre les oreilles. Je t'avais dit dès le début de cette chronique que le Gondouanais lambda était souvent dupé, mais jamais dupe. Il te voit de loin, mais ne dit rien. Comme disent les mbenguistes, il n'en pense pas moins, hein? Et donc, ce qui fatigue le Gondouanais lambda, c'est cette constance en très très démocratique république de ne jamais savoir sur quel pied il doit danser. Quand on lui dit A, puis quand il passe à la caisse, après avoir fait la queue très longtemps, ben on lui dit que c'est plutôt B et que même si c'est lui, c'est devenu B plus C plus D plus E jusqu'à Z. Et il ne comprend plus rien. Les mêmes qui lui disent qu'il faut consommer Gondouanais, eh ben quand tu les vois manger chez eux, plus ça vient d'ailleurs, plus c'est chic. Tout ce qui est dans leur frigo et qui finit dans leur ventre est venu là par bateau ou par avion. Les mêmes qui te disent que dur à l'ex, c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi. Eh ben, c'est ces mêmes gars-là qui ne veulent pas que leur fils junior passe ne serait-ce qu'une seconde en garde à vue parce qu'il a giflé un policier dans l'exercice de ses fonctions. Les mêmes qui te serinent à longueur de discours qu'il faut développer le tourisme au Gondwana passent toutes leurs vacances à deux pas de la Tour Eiffel sur les bords du lac Léman ou à faire du shopping sur la Fifth Avenue à New York. Les mêmes qui te disent qu'il faut encourager et soutenir les médias gondouanais, eh ben, dès qu'ils veulent s'adresser à leur peuple, ils se précipitent dans les studios de non, je peux pas dire ça, hein. À demain.
À demain, Maman. RFI, vous restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le journal.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
De voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
à qui appartient le wax au juste? Ce tissu coloré et éternellement réinventé.
Demain,
comment enseigner aux élèves la recherche de l'info juste à l'ère du numérique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Ce mardi, sur RFI.
Comment se réconcilier avec les nombres?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Tout est nombre, disait Pythagore. Loin d'être nos ennemis, les chiffres sont nos alliés partout à l'œuvre, dans la nature comme dans nos sociétés humaines. Et si on se laissait embarquer par la magie des nombres et même déstabiliser par les mathématiques de l'amour?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.